RCF.
Et la soirée qui se poursuit sur RCF à 18h10 avec le 18-19 régional présenté ce soir par Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver ce lundi 26 février. Peut-être que vous êtes en vacances, eh bien, bien vous en prend. Peut-être que vous nous écoutez à distance, depuis la montagne, depuis les pistes ou en bas des pistes, parce que la nuit commence quand même à tomber avec le DAB+, sur RCF Champagne-Ardenne ou sur l'application Internet pour nous capter à l'autre bout du monde. En tout cas, quoi qu'il en soit, Claude Ruiz est là, fidèle au poste, pour regarder sur le monde. Bonsoir Claude.
Bonsoir.
Et nous nous poserons cette question ce soir, sommes-nous en guerre à l'occasion de ce troisième triste anniversaire dans lequel nous entrons, une troisième année de guerre entre la Russie et l'Ukraine. On vous retrouve dans quelques secondes pour en parler. Nous serons aussi avec un maire qui nous parle parce que eux non plus n'ont pas de vacances, c'est 365 jours par an et chaque année tout au long d'un mandat. Donc les maires qui sont sur le pont, Christophe Corbeau qui est l'édile de Verzy sera notre invité dans ce magazine régional avec Jean-Pierre Benoît que l'on retrouvera également en deuxième partie d'émission pour interroger Jean-François Hutin et Agnès Janssen pour évoquer la pièce de théâtre Quoi de neuf docteur. C'est un rendez-vous que l'on peut d'ores et déjà donner les 14 et 15 mars prochains au théâtre du Chemin Vert à Reims. Évidemment, on n'oublie pas que nous sommes en période de carême. Un témoignage ce soir, celui du père Marc Aymar, doyen de l'espace missionnaire du Pertois pour le diocèse de Châlons. Et puis Claire Gris et Brigitte Gardeur seront avec nous pour évoquer un regard croisé de femmes de France et de Madagascar à l'occasion d'une exposition présentée à l'Office de tourisme de Châlons-en-Champagne. Elle démarrera le 8 mars prochain à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Voilà pour le sommaire de ce 18-19 en Champagne-Ardenne ce lundi. On vous accompagne donc jusqu'à 19h. On ne change pas les habitudes. À 18h12, notre chroniqueur Claude Ruiz est bien là en direct en studio pour regarder sur le monde. Claude, bonjour.
Bonjour.
Sommes-nous en guerre ? C'est la question que vous posez aujourd'hui au moment où l'Ukraine entre dans une troisième année de guerre avec la Russie. Les pays occidentaux peuvent-ils se considérer dans le conflit, Claude Ruiz ?
Alors, vous savez, c'est une question qui revient de façon un petit peu systématique à travers les informations, quelles que soient les informations. Et je crois qu'il faut revenir peut-être à l'historique un petit peu de ce conflit. Alors, on va pas remonter trop haut, hein, parce que ça nous amènerait à essayer d'expliciter un petit peu les différences entre les Ukrainiens et les Russes. Mais d'abord, les racines du conflit, qui ne datent pas donc des années 2020, mais qui sont beaucoup plus anciennes, apparaissent surtout, ou du moins se cristallisent, quand l'URSS disparaît. L'URSS disparaît, elle éclate, et bien entendu, il reste de la Russie que un très grand territoire, puisqu'il comprend surtout la Sibérie, mais le démantèlement de la structure entraîne des difficultés, des négociations difficiles entre la Russie et chacun des États, puisque c'est un accord avec chacun des États qui composaient l'URSS à l'époque, donc dès 1991. Et on s'aperçoit que dès 1991, la situation des Russes qui restent dans le Donbass, cette partie donc orientale du pays, est plus ou moins difficile. Ils sont pas très contents de rester sous la tutelle ukrainienne. Les transferts d'armement nucléaire, il va falloir négocier très ferme. Et on peut même considérer peut-être que ce sont les États-Unis qui ont suggéré que, pour l'Ukraine, il vaudrait mieux qu'elle vienne vers l'Occident et qu'elle se débarrasse de cet armement nucléaire. Et les Russes l'ont récupéré, vous le savez. Et je crois qu'il y avait aussi le problème délicat de Sébastopol, puisque c'est un port qui se trouve en Ukraine, alors que c'est le débouché de la flotte russe, si vous voulez, sur la mer Noire. Donc tout ça, c'est bien délicat. De plus, il y a des gens qui sont relativement actifs à l'époque du côté américain. Donc un représentant donc des affaires extérieures, en particulier Zbigniew Brzezinski, il a écrit un ouvrage en 1997 qui s'appelle « Le grand échiquier » et dans lequel il développe ses structures euro-atlantiques, c'est-à-dire que pour lui, l'Ukraine doit basculer très très vite vers l'Ouest. Et je vous rappelle que Poutine, en 2008, il a dit « si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, ça sera la guerre ». Il l'a écrit. Donc, vous le voyez, on est bien dans ce contexte. C'est un contexte pas toujours facile. Et puis, on doit dire qu'aujourd'hui, le contexte international, il y a de nouveaux acteurs qui pèsent d'un poids. Vous savez, souvent, ce qu'on appelle les BRICS, là, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, plus d'autres pays qui viennent de s'y rajouter.
C'est les nouveaux pays émergents, les BRICS.
C'est un peu, enfin, émergent, je ne sais pas. Sur le plan économique, ce sera un petit peu compliqué. Mais ce sont des grands pays, en général, et avec une puissance ou une intervention possible.
Claude Ruiz, évidemment, on parle de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais pour revenir un petit peu à la racine de la première question, concrètement, est-ce que l'on peut parler de guerre pour les Occidentaux?
Alors, est-ce qu'on peut parler de guerre? La condamnation de la Russie à l'échelle internationale fait que la Russie est en conflit avec de nombreux pays, hein, puisque tous les pays qui sont rentrés dans cette politique d'isolement ou qui isole la Russie. Hein, je vous rappelle qu'ils n'ont plus le droit d'utiliser le système financier international SWIFT pour faire des échanges monétaires. Les lignes aériennes, c'est tout un casse-tête pour se rendre en Russie ou quitter la Russie. Donc, vous voyez, au niveau des échanges internationaux, les contacts sont réduits. Si on regarde bien au niveau culturel, aucun chercheur ne va travailler maintenant en Russie ou ne peut travailler en Russie. Ceux qui ont déjà travaillé, ben pour l'instant, il n'y a pas de projet. Hein, c'est quelque chose qui est un élément important. Je vous rappelle qu'il y a un arrêt des livraisons de revues internationales, de revues scientifiques, vers la Russie. Donc, on est dans quelque chose de fermé. Le seul contact, c'est WhatsApp. Donc, il faut le savoir quand même, puisqu'il y a des pistes et que ça peut jouer un rôle. Donc, je crois que là, les échanges d'interpénétration culturelle sont un petit peu menacés. Et je dirais le chercheur russe est un peu suspect de fait. Hein. Donc on est bien rentré dans des processus qui nous amènent où tous les aspects sont des guerres. Il n'y a pas que la guerre militaire, et il y a des guerres économiques, des guerres culturelles hein, qui se mettent en place. Et donc je dirais animées à la fois par la Russie et puis d'autre part les États-Unis.
Cette situation, comment on l'explique ?
Ben je crois que, je l'ai peut-être un petit peu suggéré en parlant des BRICS tout à l'heure, je crois que le monde change. Les acteurs qu'on a cités tout à l'heure sont de plus en plus puissants. Ils sont loin de l'OTAN. Je vous rappelle que l'OTAN est une structure quand même de défense militaire occidentale, mais qui de fait, quand vous faites une structure, vous en chassez les autres, hein, ceux qui veulent pas rentrer. Donc on est bien dans des phénomènes d'opposition et ça crée une instabilité. Et je crois qu'actuellement, il y a des révisions, des rapports de force. Personne, il y a 50 ans, aurait pu dire les Chinois sont capables d'être la première puissance économique du monde. Enfin, je veux dire, on disait oui, mais dans deux siècles, hein, on était dans un autre contexte.
Si vous le voulez bien, Claude Ruiz, un mot également de la population russe. Peut-elle exiger un arrêt du conflit?
Alors ça peut être une solution par l'intérieur. Vous avez raison. Quelques analystes français donnent des pistes. Hein, mais en réalité, quand on analyse la société russe actuellement, on s'aperçoit de quoi? Ben d'abord, on s'aperçoit qu'il y a un développement urbain. C'est une société qui est devenue profondément urbaine. Ça continue. Les transports ont été améliorés, donc ça veut dire que les Russes qui étaient très éclatés et que on pouvait dans lequel on pouvait trouver des champs d'opposition, ben ces champs d'opposition ils sont réduits. Tout le monde s'intéresse surtout à la ville où il vit, au développement, aux éléments culturels dans la ville, etc. Par ailleurs, je vous rappelle que la guerre est peu présente en Russie. Hein. Il n'y a pas de... Par exemple, sur les victimes d'un certain nombre de soldats ou de bombardements, il n'y a pas de mouvement... Vous savez, comme on l'a trouvé, en particulier en Amérique latine, mouvement de mères qui se soulèvent pour faire référence à la perte de leurs enfants. Ça n'existe pas. Hein. Donc, par ailleurs, si vous prenez l'Ukraine... je vous rappelle que l'immigration ukrainienne des jeunes hommes, c'est évalué actuellement à 500 000 hommes. Donc ça veut dire 500 000 hommes qui voulaient pas faire le service militaire et qui se sont éparpillés. Donc vous voyez, ça donne pas aux mouvements sociaux toujours des possibilités d'aller jusqu'au bout. Et puis, je vous rappelle que les soldats en Russie, ceux qui sont la plupart du temps convoqués, quand on regarde à peu près, ce sont souvent ceux des républiques caucasiennes. Vous voyez, c'est pas les Russes de Moscou ou de Saint-Pétersbourg. Donc, on est bien dans quelque chose d'un peu compliqué. Donc, la guerre continue, mais elle bute à la limite contre le fait que la Russie, pour l'instant, n'a pas trop de points de faiblesse. Hein, on a beau les crier, je vous rappelle que la zone euro a un taux de croissance de 0,3% et en 24, le FMI pense pour la Russie 2,6. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont à mettre sur la table et je crois que là, la Russie est même devenue le premier exportateur mondial de céréales. On parle d'agriculture en ce moment. Donc vous le voyez, c'est quelque chose qui ne donne pas les moyens d'avancer par l'intermédiaire des sociétés.
Pourtant, rapidement, Claude Ruiz, les sanctions internationales, elles semblent fortes ?
Oui, les sanctions internationales sont fortes, mais bien entendu, beaucoup de pays participent, même les BRICS sanctionnent aussi la Russie, mais souvent ils ne l'appliquent pas. Donc c'est un petit peu ça qui est à mettre en avant. Hein, je crois que c'est quelque chose à souligner.
Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Ben, je crois qu'il faut un discours plutôt vers les jeunes, parce que je pense que les jeunes Ukrainiens et les jeunes Russes, c'est eux qui sont l'avenir. Hein, et donc, il faut éviter les annonces guerrières si l'on veut négocier. Et puis, je crois qu'il faut essayer par tous les moyens de trouver comment cette société ou ces sociétés pourront se reconstruire. Mais là, le travail est long, sans doute, et fastidieux.
Merci Claude Ruiz de nous avoir éclairé sur cette situation Ukraine-Russie et la réaction et le comportement des Occidentaux. À très bientôt Claude.
Au revoir.
Le 18-19 sur RCF.
18h22, un maire qui nous parle ce soir. Avec qui êtes-vous en ligne Jean-Pierre ce lundi ?
Et notre maire aujourd'hui est Christophe Corbeau. Il est maire de Verzy dans le département de la Marne. Christophe Corbeau, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous, vous êtes le maire de Verzy. Alors Verzy, c'est combien d'habitants aujourd'hui ?
Alors le recensement est dû l'année dernière. Verzy est à 980 habitants. Alors on fluctue avec autour de nous, puisque hélas, la population évolue. Le village est un bourg et on est à 1000 habitants, quoi, on va dire. Enfin, ça dépend des membres du recensement.
Alors, monsieur le maire, on va parler bien sûr des faux de Verzy qui sont, j'allais dire, presque mondialement connus. Mais vous êtes maire depuis combien d'années, monsieur Corbeau ?
Alors, j'ai commencé il y a. C'est mon cinquième mandat. Mais j'ai été maire deux mandats. Donc, c'est mon deuxième mandat de maire.
Quand on parle de Verzy, est-ce qu'il y a un renouvellement de la population ? Est-ce que vous accueillez peut-être des jeunes ménages, des jeunes couples qui renouvelleraient un petit peu le village ?
Verzy a la chance d'être entre Reims et Châlons et en plus a la chance d'avoir beaucoup de locatifs. Donc c'est vrai qu'il y a des jeunes qui viennent s'installer puisqu'il y a Pluriel, Reims, Habitat sont sur Verzy, la commune a un peu de meublé et du coup c'est vrai qu'on a de la rotation, on n'a pas que du sédentaire, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ces locatifs qui nous permettent de renouveler notre population régulièrement. Ça vit quand même à Verzy.
Quand on parle de Verzy, on pense Champagne, mais je me trompe peut-être, mais quand même, Verzy, Champagne, ça va ensemble.
Alors il y avait un slogan, Verzy, c'est faux, c'est vignoble. Alors on peut toujours le conserver, puisque oui, Verzy est collé à la forêt sur le côté ouest, et à l'est, ben, son vignoble, donc oui. Verzy est bien niché entre sa forêt, donc les faux, bien sûr, puisqu'on a un site remarquable, une forêt d'exception, maintenant classée forêt d'exception par l'ONF, et en même temps, de l'autre côté, son vignoble en grand cru, donc qui correspond à une quarantaine d'exploitations viticoles.
Et on sait que ça marche bien en ce moment, on espère que ça va bien marcher encore pour la prochaine vendange, mais en ce moment, ça tourne bien dans le monde du vignoble.
Alors, ce n'est pas les viticulteurs qui peuvent être en première ligne, du moins surtout pas les nôtres, par chez nous en Champagne. Il y a quelques critères administratifs à supprimer, mais ça sera les seules revendications. Je pense que sur le reste, la Champagne va bien, oui.
Monsieur le maire, vous avez évoqué à plusieurs reprises déjà les faux de Verzy. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, elle est classée. On vient de loin pour voir ces faux.
C'est vrai que les gens appellent pour savoir s'ils peuvent venir visiter. Alors, c'est une forêt. Donc l'accès est libre, Donc il y a différents parkings gérés par l'ONF. Et donc le site a été raménagé pour préserver les faux au piétinement. Donc il y a une grande balade autour des faux qui a été requalifiée par l'ONF avec une accessibilité PMR. Et donc vous pouvez faire de la balade en dehors du site des faux dans la forêt domaniale. Mais donc il y a un grand site ONF au-dessus de chez nous.
Et puis
qui attire beaucoup de monde.
Est-ce que c'est l'occasion pour ceux qui vont voir les faux d'aller faire un tour quand même dans le village? Parce que le village, c'est un village très accueillant. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour aménager en quelque sorte le bourg.
Ah ben, c'est vrai que Verzy attire encore et de ce fait, on a encore beaucoup de commerces. Et c'est vrai que même si les gens viennent se promener, il y a toujours la boulangerie, il y a un restaurant, il y a une épicerie. On peut encore rester à Verzy la journée, quoi. On peut quand même. Et puis on peut profiter à côté du phare de Verzenay, on ne va pas être chauvin, qui est là pour faire le complément sur le vignoble.
Alors il faut dire aussi qu'il y a des communautés de communes, mais un maire, on le dit à chaque fois, il reste quand même, entre guillemets, le patron dans le village. C'est quand même lui qui est interpellé, en bien ou en mal d'ailleurs, par vos administrés.
Alors oui, même si on est rentré dans ce qui s'appelle le Grand Reims, la communauté urbaine du Grand Reims, logiquement le maire a tout pouvoir sur sa commune. Même si certaines décisions sont prises par le Grand Reims, logiquement, c'est toujours le conseil et le maire qui ont pouvoir. Après, sur les histoires d'administrés, c'est toujours le premier magistrat qui est en première ligne à chaque fois, puisque s'il y a des revendications ou des remarques, c'est toujours le maire qui passe en premier. C'est son rôle, on va dire.
On dit souvent que c'est un travail qui est de plus en plus compliqué et que, par exemple, quelqu'un qui a une activité professionnelle, il a bien du mal à conjuguer les deux, le fait d'être maire et le fait d'avoir un métier. Est-ce que, vous êtes peut-être en retraite maintenant, Monsieur Courbeau ?
Je ne vais pas nier. Donc, officiellement, je ne suis pas en retraite, mais j'ai mon fils qui a repris l'activité avec moi en co-gérance. Et donc, c'est lui qui est devenu, on va dire, qui est pour prendre les rênes de l'exploitation. Et donc, j'ai un peu plus, beaucoup de disponibilité.
Vigneron un jour, vigneron toujours.
Ah oui, non, mais je serai toujours vigneron, mais je vais plus à la vigne. Je fais plus de ce qui est comptabilité que de vigne.
En fait, t'es paperasse.
Voilà, c'est ça, on fait ce qui est à côté. Mais c'est toujours vigneron, oui, c'est sûr. Oui.
Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, c'est une question qu'on pose de temps en temps, est-ce que vous êtes un maire heureux? Parce qu'on ne peut pas être maire sans passion.
Je pense que oui, si on n'a pas la passion, on n'y va pas, parce que sinon c'est un calvaire, quoi. Alors c'est vrai que ça vous prend du temps, ça peut vous occuper certains week-ends, à certains moments, mais c'est vrai que si la passion est là, ça passe. On a la chance aussi d'avoir un village qui n'est pas trop demandeur, on n'a pas non plus trop de voyous sur notre commune, tout se passe bien. Bon, on a des demandes comme tout village, mais ça, c'est quand même un village qui va bien. Et puis c'est vrai que j'ai commencé en tant que simple soldat, je dis toujours, et j'ai appris sur le tas, et c'est vrai que ça, faut se former avant de dire je veux être maire, quoi. Parce que venir être maire comme ça, je pense qu'il faut se préparer avant, quoi.
Et accepter d'être dérangé. Vos horaires, monsieur le maire, c'est pas c'est pas 10h midi, 2h, 4h, hein, c'est aussi bien le week-end, à toute heure, n'importe quand. Et ça, c'est peut-être un petit peu lourd de temps en temps.
Oui, c'est sûr que logiquement, on est 24-24. C'est le tarif. Mais si vous voulez, on peut aussi quand même s'absenter. On a des adjoints pour ça. On délègue aussi quand même. C'est pas non plus pour le maire. Mais c'est vrai que quand on est sur le village, lui, on est censé être 24-24. Après, je pense qu'il y a eu des améliorations vis-à-vis de ça, puisque avant, on avait l'obligation pour accompagner les décès de mettre tout ce qui s'appelait le bracelet. Et c'était, à certains moments, c'était un peu compliqué. Mais ça, c'est, les services ont supprimé cette étape et les corps peuvent repartir tranquillement sans que le maire soit présent.
En tout cas, merci Monsieur Christophe Courbeau. On aura l'occasion de vous retrouver. On le dit à chaque fois, mais d'ici la fin de l'année, on referait bien un petit point parce que Verzy, c'est un lieu de visite, en particulier l'été, le printemps et l'été. Et donc, ça serait l'occasion de reparler de Verzy, de ses faux et de ses vignes.
C'est sûr que le site des faux, à tout moment, il change. Et donc là, il est en période hivernale, mais vous passez au printemps avec le début. Et l'été, c'est pas la même forêt, quoi.
Merci. Pareil. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Christophe Courbeau, et à bientôt sur RCF.
Et merci Jean-Pierre. Enfin.
Merci Christophe Courbeau, merci Jean-Pierre. 18h30, le journal régional. Les titres de ce lundi 26 février, les producteurs, agriculteurs et éleveurs du territoire sont au Salon international de l'agriculture pour valoriser le savoir-faire local. Prise de pouls avec des Ardennais présents à Paris. À Châlons-en-Champagne, la municipalité souhaite s'inscrire dans l'expérimentation de la tenue unique à l'école. Explication.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Le Salon de l'agriculture a ouvert ses portes ce week-end à Paris. L'inauguration de la plus grande ferme de France a eu lieu sous tension. Des agriculteurs du territoire sont présents sur place. L'occasion d'entendre leurs ressentis ce soir. Vincent Contal de la biscuiterie L'Atelier Contal, basé à Bagnols-Recouvrance, près de Rethel dans les Ardennes, est à Paris justement. Vincent Contal, bonsoir.
Bonsoir.
Vous étiez à l'inauguration, vous, de ce Salon de l'agriculture, samedi ?
Ah, moi j'y suis depuis le début, là, depuis samedi, oui, tout à fait.
Et est-ce que ça se passe bien pour vous, Vincent Contal ?
Alors nous, on n'a pas eu de soucis par rapport au conflit, hein. On était dans un pavillon qui a été épargné. Bon, ça a joué quand même sur la clientèle, parce qu'il n'y avait pas la même ouverture d'esprit. Mais depuis, bon, dimanche et aujourd'hui, c'est une ambiance tout à fait différente, voilà.
Bon, une ambiance, on imagine, plus sereine, plus posée, où l'on retrouve l'esprit du Salon de l'agriculture.
Plus d'ouverture d'esprit, moins d'appréhension, de peur. Voilà.
Et pourquoi faire le choix d'exposer votre savoir-faire de Bagnols-Recouvrance à Paris ? La clientèle est différente, on imagine, Vincent Contal ?
Alors non, c'est la même clientèle. Hein. C'est des gens qui veulent des bons produits. On est en bio, on est en sans gluten, on est aussi avec un peu de produits avec gluten. Hein. On n'est pas sectaire par rapport à ça. Mais c'est surtout, on a aujourd'hui une gamme magnifique avec à peu près une trentaine de références. Et se faire connaître aujourd'hui, c'est passer obligatoirement par le salon de gastronomie au niveau du salon de l'agriculture. Et aujourd'hui, bah tiens, je vous donne un exemple. On a eu deux contacts qui vont se passer, un marché sur Casablanca et puis un marché sur l'Italie, sur Turin, avec des épiceries fines qui veulent en palette des cuillères et des biscuits apéritifs. Donc on est dans le vrai et ça permet de capter des gens qu'on n'aurait jamais pu capter à Bagnols-Recouvrance.
La visibilité que vous offre ce Salon de l'agriculture, c'est vraiment une ouverture au niveau national et à l'international davantage, Vincent Contal ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc là, on s'ouvre à l'extérieur. Bon, on travaille déjà en Europe hein, depuis déjà 3 ans, mais là, on voit qu'on a vraiment, on est encore méconnu, voilà. Aujourd'hui, notre recherche, c'est de travailler avec des professionnels, des épiceries et des magasins bio de plus en plus.
Et jusqu'à dimanche prochain, vous allez être présent sur place ?
Tout à fait, on fait les 9 jours. Donc on est à 2 la semaine et à 3 le week-end sur le stand. Et en fait, on donne des frissons à nos clients parce que ben voilà, quand on explique qu'on est paysan, meunier, biscuitier, déjà c'est hyper intéressant. En plus, en bio, aujourd'hui on critique le bio, où on dit c'est en perte de vitesse, eh bien non, sachez que nous, on est en croissance permanente, mais on fait les choses pour, que ce soit des farines, des lentilles ou des biscuits, ou de l'huile de caméline ou de colza, on progresse en permanence. Alors, on fait pas des pourcentages comme on peut l'imaginer, on progresse, voilà, ça va entre 10 et 30% de croissance par an, mais c'est ça qui est important, c'est d'expliquer nos produits, d'augmenter notre clientèle, de fidéliser les clients, les particuliers, comme les magasins.
Eh bien, en tout cas, on vous remercie de nous avoir présenté succinctement comment se déroule ce Salon d'agriculture à Paris. Et puis, on invite nos auditeurs en région à vous rejoindre, pourquoi pas, d'ici dimanche prochain pour aller découvrir votre activité s'ils ne la connaissent pas. Merci,
oui.
Vincent Contal de l'atelier Contal. C'est à Bagnols-Recouvrance, dans les Ardennes, que vous êtes basé. Nous, on reste au Salon d'agriculture. Aujourd'hui, l'association des producteurs de lait indépendants et l'European Milk Board ont manifesté sous le slogan « Pour une agriculture équitable ». Adrien Lefebvre, président de l'appli, est en ligne avec nous. Bonsoir Adrien.
Bonsoir Alexis.
Flashback sur cette journée, nouvelle mobilisation des producteurs de lait aujourd'hui. Donc il y avait les producteurs de lait indépendants français et européens, si on a bien tout compris.
Alors exactement, on était un peu plus de entre 200 et 300 producteurs venus de toute l'Europe, hein, de 10 pays étaient représentés et on parlait au micro. On a fait un défilé très pacifique, mais quand même un petit peu bruyant, depuis le hall 1 où il y a l'élevage et toutes les vaches et tous les animaux. Et après, on a été aussi dans le hall 2, qui est plutôt le hall végétal, puis le hall 4, celui des institutions. Donc on a fait du bruit, mais en même temps, un défilé qui s'est très bien passé. Moi, c'est vrai que j'avais peur un petit peu par rapport à ce qui s'était passé samedi dernier, mais là, ça s'est super bien passé. On était dans le bruit, mais en même temps, dans la bonne humeur. L'objectif, c'était clairement de montrer que le problème que rencontrent les producteurs français aujourd'hui, et suite aux annonces d'Emmanuel Macron, bah, c'était aussi un problème européen. Clairement, le problème de prix qu'on a aujourd'hui en France, qui ne couvre pas les coûts de production, bah, nos confrères et voisins belges, allemands, ont exactement la même problématique. Là, il y avait des producteurs qui étaient venus de Lituanie au plus loin jusqu'au Portugal. Donc vous voyez, on a réussi à réunir toute l'Europe. Et pourquoi aujourd'hui? Mais parce que en même temps, à Bruxelles, était le Conseil des ministres. Et là-bas, il y a eu des manifestations un petit peu plus compliquées. Mais notre but, c'était de montrer que les prix planchers, notamment qui ont été évoqués par Emmanuel Macron samedi soir, c'est que ces prix-là puissent être mis au niveau européen. Et c'est très important de parler au niveau européen, parce que si on fait des choses et qu'on continue, comme Egalim, de faire des choses franco-françaises, en fait, on se retrouve en position de concurrence avec nos voisins européens. Et nous, là, aujourd'hui, on est en position de solidarité avec nos confrères européens, et c'est ce message-là qu'on voulait faire passer.
Adrien Lefebvre, ça fait déjà quelques jours, quelques semaines que vous martelez ce message avec des mobilisations qui ont eu lieu tout au long de ces derniers jours, ces dernières semaines. Vous étiez encore rassemblés aujourd'hui avec toute une solidarité européenne. Est-ce que vous, en tant que président de l'appli ou des représentants de l'appli, participeront aux rencontres prévues avec Emmanuel Macron et les syndicats agricoles prochainement?
Alors on était conviés au fameux grand débat qui a été annulé. Du coup, c'est un petit peu dommage de ce côté-là. J'ai pas pu malheureusement parler de tout ça avec le président, mais c'est prévu demain une rencontre avec le ministre de l'Agriculture, et c'est prévu aussi de battre le pavé à Bruxelles prochainement pour justement, en vue des élections européennes, continuer notre mobilisation. Elle reste constructive, hein, comme vous l'avez dit, on a déjà fait, que ce soit à Reims et ailleurs en France, des distributions de lait, parce que ce qu'on voulait, c'est surtout garder les consommateurs avec nous. Dans les premiers sondages, on était autour de 80% d'opinion publique favorable. Aujourd'hui, on se situe à 90%. Donc on a vraiment continué, malgré un mois de mobilisation, de garder les consommateurs et les citoyens français et européens à nos côtés. Donc là, maintenant, il y a les élections européennes, c'est la prochaine échéance. Et c'est vraiment ça qu'on veut battre, parce que les idées d'Emmanuel Macron ne sont pas mauvaises, mais derrière, si elles restent franco-françaises, on n'y arrivera pas. Donc il faut les pousser au niveau européen. Et donc j'espère que notre constructivité fera qu'on sera quand même un peu plus entendu par nos institutions, parce que c'est vrai que tout à l'heure, ça s'est terminé fort bruyamment au ministère de l'Agriculture, ministère qui, jusqu'à maintenant, n'a jamais voulu nous rencontrer, malgré que nous sommes des indépendants. Aujourd'hui, c'est vrai que les institutions écoutent principalement les syndicats majoritaires, que ce soit en France ou ailleurs, on a tous le même problème. Nous, en tant qu'indépendants, on est sortis depuis maintenant un mois de nos fermes pour manifester, et l'objectif, c'était de leur montrer qu'on était constructif, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé notre concept de l'équitable avec Fair France, et là, on en a aussi montré d'autres en Europe qui s'occupent du lait, mais pas que du lait, et d'autres filières.
Eh bien, en tout cas, grand merci Adrien Lefebvre de nous avoir éclairé. On le rappelle, vous êtes président de l'appli, l'association des producteurs de lait indépendant pour la France, évidemment. Et puis, on ne manquera pas d'être avec vous et d'être tenu au courant des nouvelles, des rencontres éventuelles et puis de l'avancée de ces négociations.
Mais merci Alexis. Je vous tiendrai au courant. J'espère bien que le rendez-vous demain avec le ministre de l'Agriculture se passera bien. Dans tous les cas, on est force de construction. Et j'espère qu'à un moment donné, on sera entendu, parce qu'on représente quand même une base solide des producteurs qui sont indépendants. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne sont pas syndiqués. Et c'est pas pour autant que on n'est pas force de construction et qu'on ne peut pas prendre part au débat.
Merci Adrien Lefebvre, président de l'appli. Pour rappel, le Salon international de l'agriculture à Paris, c'est jusqu'au dimanche 3 mars. Côté concours général agricole, pas de médaille pour la famille Barré avec leur charolaise Olympe et Rennes, qui terminent respectivement 4e et 5e du classement parmi les 40 charolaises à concourir. À la rentrée de septembre, la ville de Châlons-en-Champagne souhaite s'inscrire dans l'expérimentation d'une tenue vestimentaire commune à l'école. Pour Sabine Bourbrock, adjointe au maire chargée de l'éducation, les élus ont trouvé que l'expérimentation proposée par Gabriel Attal est intéressante.
Les élus partagent le diagnostic sur le fait qu'il y a des problématiques de climat scolaire. La tenue vestimentaire fait partie de ces problématiques qui peuvent, dans les cas les plus graves, être à l'origine de harcèlement. Le deuxième élément qui nous a déterminé à proposer l'expérimentation donc aux établissements, aux écoles donc qui ont des sections élémentaires, c'est que c'était une expérimentation. Et donc on a très peu d'occasions où ces phénomènes, on peut les expérimenter sur du temps long. Et c'est la démarche aussi que nous avons trouvé intéressante de pouvoir, sur 2 ans, voir si la tenue d'école, puisque c'est le nom que nous avons donné au projet, modifie le climat scolaire. Nous pensons qu'il y a là un outil qui est de nature à permettre un meilleur climat scolaire et une meilleure concentration des enfants au sein des classes.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Une concertation a eu lieu le 21 février dernier entre la municipalité, les équipes pédagogiques et les parents d'élèves. Les écoles publiques élémentaires volontaires devront se faire connaître d'ici le mois de mars. Sport, depuis quelques minutes, le 8e de finale de Coupe de France de basket entre le Champagne Basket et Vichy Clermont est en cours. Actuellement, il y a 16-11 pour l'Alliance Champenoise. Un match au sommet, effectivement, pour les Marnais qui avaient été défaits après prolongation. Il y a 8 jours, en finale de Leaders Cup Pro B par cette même équipe de Vichy-Clermont, c'était sur terrain neutre, sur parquet neutre même en basket. Côté résultat, samedi soir en Ligue féminine à la maison, les Flammes Carolo ont subi la loi du leader Villeneuve-d'Ascq. Défaite 56-82, Charleville recule à la 8e place. En volley, Chaumont n'a pas fait de détails. Vendredi soir à Tourcoing, victoire 3-7-0 et une place de leader conservée en football. 26e journée de Ligue 2, elle n'a pas souri à Troyes qui s'est incliné 2-1 au stade de l'Aube face à Dunkerque. Avec 30 points après 26 journées, l'Estac est 16e en Ligue 1. Le Stade de Reims retrouve le sourire. Victoire 2-1 sur la pelouse du Havre hier après-midi. Un succès qui stabilise les Rémois à la 8e place du classement. Par ailleurs, on a appris en fin de semaine que le capitaine du Stade de Reims, Younis Abdelhamid, au club depuis 2017 et en fin de contrat au mois de juin prochain, ne poursuivrait pas en rouge et blanc la saison prochaine. C'est une volonté du club de ne pas le prolonger. Pas de Jeux Olympiques de Paris 2024 pour le judoka Bragard, Axel Clerget, qui ne s'est finalement pas qualifié. Médaillé à Tokyo, il laisse la place à Maxime Gaël Ngaya Pambou dans la catégorie des moins de 90 kilos. Un coup dur pour le Haut-Marnais qui rêvait de clôturer sa carrière sur un exploit en France. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Et on prend un petit peu d'avance ce soir à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars prochain. Une exposition de portraits de femmes françaises et malgaches et de leurs récits de vie sera proposée du 8 au 23 mars à l'Office de tourisme de Châlons-en-Champagne. Pour nous en parler, Claire Griès et Brigitte Gardeur, membres du groupement des éducateurs sans frontières, avec Christopher.
Bonjour Claire Griès.
Bonjour Christopher.
Bonjour Brigitte Gardeur.
Bonjour Christopher.
Merci d'être avec nous dans le studio de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes membre du GREF. Ensemble, on va présenter donc ce projet d'écriture intitulé « Regards croisés de femmes Madagascar-France ». Ce projet d'écriture que vous en avez fait une exposition pour ce mois de mars à l'Office de tourisme de Châlons en Champagne. Avant de parler de l'exposition et de ce projet d'écriture, Claire Griès, présentez-nous un petit peu l'association GREF, en quelques mots.
Alors GREF, c'est un acronyme, ça veut dire Groupement des éducateurs sans frontières.
D'accord.
Éducateurs, formateurs, ça veut dire que, essentiellement, nous venons du monde de l'éducation et que nous travaillons encore bénévolement dans le monde de l'éducation.
Quelles sont vos grandes missions ?
Alors le GREF comporte à peu près 400 membres en France, c'est une association nationale qui travaille aussi bien en France, par exemple pour des cours de FLE, de français langue étrangère pour des migrants, qu'à l'étranger, sur demande de structures comme des ministères par exemple, ou bien pour la société civile. Nous par exemple, nous travaillons pour une association de femmes.
D'accord, donc la mission elle va même au niveau international, on peut le dire.
Bien sûr.
En Champagne-Ardenne, vous êtes combien ?
On est entre 10 et 12. C'est vrai que depuis le Covid, nous avons perdu pas mal de membres.
Oui, comme beaucoup d'associations, malheureusement. Brigitte Gardeur, ce projet d'écriture, on rappelle l'intitulé « Regards croisés de femmes Madagascar-France ». Comment est-il né ce projet ?
Il est né suite à une mission justement sur Madagascar, plus exactement sur l'île Sainte-Marie. Sur cette île, nous allons rencontrer des femmes d'une association qui s'appelle le Rassemblement des femmes pour le développement de Sainte-Marie.
Oui.
Nous travaillons la langue française, le français, dans le domaine de l'hôtellerie, pour que ces jeunes filles puissent retourner dans le monde du travail, dans les hôtels, les restaurants. Et suite donc à l'une de ces missions, on a eu envie de les rencontrer plus en profondeur et de connaître un peu plus leur culture. Qui sont ces femmes ?
Donc, par quelle manière ? Des interviews ?
Nous les avons interviewées.
D'accord.
Nous avons interviewé non pas uniquement ces jeunes filles, mais nous sommes partis à travers l'île pour rencontrer beaucoup de femmes. Et nous en avons interviewé 22.
Quand on revient sur l'intitulé « Regard croisé de femmes Madagascar-France », donc vous venez de dire, Brigitte, vous avez interviewé des femmes malgaches et donc des femmes françaises aussi ?
Alors, de retour en France,
oui.
Nous avons aussi été à la recherche de femmes françaises.
D'accord.
À interviewer. Nous nous sommes donnés comme point d'ancrage de trouver un point commun entre une femme que l'on a interviewée à Madagascar et une femme française. C'est ainsi que nous avons choisi.
Et vous l'avez trouvé, ce point commun ?
Pour chaque femme, nous en avons trouvé.
Oui, ça va. Combien d'interviews, Claire Gries, vous avez réalisées ? Que ce soit des femmes malgaches ou des femmes françaises ?
Bah, c'est un nombre équilibré pour les femmes malgaches et les femmes françaises. Autant de femmes françaises que de femmes malgaches. 22 femmes malgaches, 22 femmes françaises. Alors, je voudrais rajouter une petite chose,
oui.
C'est que ce projet d'interview, il est venu suite à un appel à projet du GESCOD, c'est-à-dire du réseau multi-acteurs de Grand Est, qui demandait un travail sur les inégalités hommes-femmes ou la recherche de l'égalité.
Et donc, vous l'avez mené bien comme il faut à travers donc ces différentes interviews. Alors, on ne va pas dire interviews, on va dire des récits, Brigitte, c'est bien ça ?
Mais ces interviews ont été ensuite écrites,
oui.
Ce sont maintenant, aujourd'hui, des récits.
Des récits.
Des récits qui se trouveront donc dans un ouvrage.
Que vous avez déjà imprimé d'ailleurs.
Voilà, qui a été rédigé, illustré et aujourd'hui imprimé.
Donc on le disait, une quarantaine de récits partagés entre les femmes malgaches et les femmes françaises. Cet ouvrage, on va le retrouver à travers l'exposition. Justement, parlons-en de cette exposition, hein, toujours autour de ce projet d'écriture, hein, Regard croisé de femmes Madagascar-France. Cette exposition qui a lieu courant mars, du 8 au 21 mars à l'Office du tourisme de Châlons-Champagne. Qu'est-ce qu'on va y retrouver concrètement, Claire Gries, dans cette exposition ?
Donc il y aura les récits, évidemment. Nous espérons que toutes les femmes qui ont participé en France seront là, évidemment.
Répondront à
oui.
Ce bel événement.
Oui, ce sera le 8 mars, hein, journée symbolique.
Oui.
Et puis il y aura évidemment des photos, les photos prises par Brigitte, et des vidéos, des extraits. Hein. Évidemment, on ne peut pas regarder une heure de vidéo. 2-3 minutes par interview, c'est déjà beaucoup. Hein. Mais ce sont des extraits qui illustreront la situation des femmes ici et là-bas.
Alors j'imagine que vous avez hâte que l'exposition soit visible, disponible au grand public. C'est quand même un beau travail quand même, hein, de réaliser une exposition, Brigitte Gardeur, notamment à l'Office du tourisme de Châlons-Champagne.
Ah, c'est un nombre incalculable d'heures,
ouais.
Hein, puisqu'on peut compter 2 heures d'interview pour chaque femme, 2 heures autant d'écriture après. Ensuite, on a tout le montage à faire.
Oui.
On a aussi beaucoup d'interviews à revoir pour pouvoir sélectionner et puis monter. Mais ça, je vais rien vous apprendre au niveau des heures pour ce travail-là.
Tout à fait, tout à fait. Une question un petit peu personnelle, Claire Gries. Que retenez-vous de ce projet d'écriture ? Qu'est-ce qui vous aura le plus frappé dans ce projet ?
Alors, ce qui m'a frappé, c'est la découverte que chaque vie est différente,
oui.
Et passionnante. On pourrait continuer à interviewer des personnes, des femmes, mais aussi des hommes, et on découvrirait encore des tas de choses.
C'est quelque chose que vous aimeriez renouveler d'ailleurs ?
Oui, et d'ailleurs, notre sous-titre c'est « D'autres vies que les nôtres ». C'est passionnant de découvrir la vie de quelqu'un,
oui.
Par son propre discours.
Brigitte Gardeur, même question. Qu'est-ce que vous aurez retenu de ce projet, de ce beau projet que vous avez mené ensemble ?
La force des femmes.
Oui.
Toutes ces femmes ont une force en elles admirable. Toutes ont des situations différentes, mais toutes sont armées face à la vie.
Regard croisé de femmes Madagascar-France en exposition à l'Office de tourisme de Châlons-Champagne du 8 au 21 mars. Et par la suite, Clairies. Cette exposition aura lieu à l'office de tourisme de Sainte-Marie au Madagascar.
À Madagascar, oui, tout à fait, tout à fait. Et moi, j'ai beaucoup d'impatience, justement, de voir le regard des personnes que nous avons interviewées là-bas sur leurs photos, sur leurs récits de vie. Cette découverte par elles, ça sera formidable.
Brigitte Gardeur, pour plus de renseignements sur cette exposition et sur ce projet d'écriture, on peut vous contacter, on peut avoir des renseignements sur Internet?
Bien, je peux donner mon adresse mail éventuellement.
Oui, tout à fait.
Tout à fait. Brigitte.gardeur@laposte.net.
Voilà, pour les personnes qui souhaiteraient avoir plus de renseignements sur cette exposition et notamment sur cet ouvrage que vous avez donc imprimé il n'y a pas si longtemps que cela. Et puis, avant de nous quitter, Claire Griès, on parlait justement de l'association Greffe. On parlait de ce petit nombre, petit nombre, c'est relatif, d'une dizaine de personnes en Champagne-Ardenne. Mmh. On disait, par rapport à la Covid, on perd un petit peu des bonnes volontés dans les associations. Peut-être l'occasion aujourd'hui sur INSEF de faire cet appel.
Tout à fait. Alors, bon, il suffit de nous appeler ou de consulter déjà le site GreffAsso.
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 Très bien, tout attaché.
Voilà. Notre siège national est à Paris. Et il y a un site où l'on voit l'ensemble des actions qu'organise le Greffe.
Voilà, que vous menez au quotidien.
Et nous serions très heureux de recruter de nouvelles personnes.
Eh bien écoutez, avec grand plaisir de faire cet appel aujourd'hui sur les ondes de RCF en région. Merci Claire Griès, merci Brigitte Gardeur d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, membre de l'association Greffe, de nous avoir présenté ce très beau projet Regard croisé de femmes Madagascar, France. À très bientôt.
À très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci Christopher.
Le 18-19 sur RCF.
Et nous, à 18h52, on part sur les planches pour présenter une pièce de théâtre. Quoi de neuf, docteur? Deux invités sont en studio, Jean-François Hutin, Agnès Janssen, avec Jean-Pierre.
Bonjour à tous les deux, Jean-François Hutin, Agnès Janssen.
On va parler médecine d'une certaine façon, et théâtre aussi. Un rendez-vous important avec deux dates, les jeudis 14 et vendredi 15 mars, c'est à 19h30 au théâtre du Chemin Vert, avec une pièce de théâtre, La Grande Histoire de la Médecine. Alors on va y venir avec vous et avec votre association dans un instant au fil de l'histoire. Mais docteur, bon, vous êtes médecin, une pièce de théâtre sur la médecine, pourquoi pas? Mais vous-même en tant que médecin, vous êtes toujours intéressé par l'écriture et le théâtre. Vous avez écrit déjà un certain nombre de livres.
Oui, mais c'est ma première incursion dans le théâtre. J'ai écrit des romans, j'ai écrit des livres un petit peu historiques, j'ai écrit des biographies, notamment une biographie d'un médecin qui s'appelle Augustin Cabanès. Mais c'est la première fois, effectivement, que j'écris une pièce de théâtre. Alors, qui s'appelle effectivement, quand ça a été publié, La Grande Histoire de la Médecine, mais le titre de la pièce sera Quoi de neuf, docteur?
Alors justement, quoi de neuf, docteur? Une pièce de théâtre comme celle-là, d'où vous est venue l'idée? Quelle a été en quelque sorte l'origine de cette pièce de théâtre, hormis le fait que vous l'ayez écrite, bien sûr?
Ah ben, je m'intéresse à l'histoire de la médecine depuis un certain temps. J'ai écrit un livre sur l'histoire de l'examen clinique, donc qui reprend effectivement toute l'histoire de la médecine depuis les temps les plus anciens. Et je me suis amusé un jour en me disant, tiens, ce serait assez original d'écrire sous une autre forme. Et d'où l'idée de la pièce de théâtre. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, bon, j'avais déjà un certain nombre de notions, mais j'ai écrit ça en quasiment un week-end.
Et cette pièce de théâtre, une fois écrite, il faut ensuite, pourquoi pas, qu'elle soit jouée. Donc, il a fallu, dans vos rencontres, que vous ayez en quelque sorte quelqu'un qui vous mette un peu le pied à l'étrier, en tout cas, qui vous dise, allez, il faut se lancer.
Ouais, c'est tout à fait comme ça que ça s'est passé. C'est un livre qui est sorti en 2017. Je l'avais donc distribué à quelques amis. C'était resté un petit peu lettre morte pendant un certain temps. Et puis, mon ami Pierre Coulon, qui de l'association Fil de l'Histoire Production, m'a dit, bah, écoute, une pièce de théâtre, c'est amusant à lire, mais c'est encore mieux à voir jouer. Pourquoi on n'essaye pas de la mettre en scène? Alors, on s'est lancé dans l'aventure, n'étant effectivement ni lui ni moi du tout
du monde du théâtre. Alors c'est là, Agnès Janssen, qu'au fil de l'histoire vient apparaître dans notre conversation d'aujourd'hui. C'est parce que votre frère et vous-même, vous êtes dans cette association et vous proposez toute l'année des conférences très variées.
Oui, nous passons de conférences, des soirées cinéma avec musique, des musiciens sur scène. On a fait dernièrement une soirée avec Camerata Champagne qui nous a parlé d'Élise et le Titanic et tout en jouant de la musique. Et puis, bon, on est très contents de porter bien ce projet de pièce de théâtre qui nous paraît une très très belle chose, une très belle réalisation avec des acteurs qui se donnent beaucoup pour faire quelque chose de très beau.
Jean-François Hutin, médecin, Jean-François Hutin, écrivain, auteur, mais qui avait peut-être besoin, avec Au fil de l'histoire, de pouvoir mettre en scène, de pouvoir se lancer dans cette aventure. Et là, vous intervenez d'une certaine façon avec votre frère.
Oui, et puis d'autres personnes. Hein. Il y a une présidente, Mme Gauthier, il y a aussi une comptable trésorière, Marianne Raymond. Enfin bon, on est quand même assez actifs. Et le tout était de mettre en lien, en fait, je pense qu'on a soulagé beaucoup les comédiens et Jean-François en étant au milieu entre le théâtre du Chemin Vert et la compagnie, voilà, pour mettre tout en clair.
Alors si on regarde un peu, Jean-François Hutin, cette pièce, il y a une forme de chronologie dans cette pièce. On démarre très loin dans la préhistoire et on va aujourd'hui.
Oui, on va même au-delà d'aujourd'hui, puisque j'imagine la médecine dans le futur.
Il y a des tableaux, en quelque sorte.
Oui, c'est ça.
Vous faites appel aux grandes figures qu'on connaît de la médecine, avec Marie Curie, avec Hippocrate.
Oui, tout à fait. En fait, je prends une pathologie au départ, et à partir de cette pathologie, un certain nombre de médecins vont se pencher au chevet de ce pauvre malade et vont montrer un petit peu au public l'évolution de la pensée médicale. Alors à travers effectivement des personnages illustres comme Hippocrate, Galien, Ambroise Paré, mais parfois des médecins moins connus, où j'essaye de montrer certaines évolutions de la médecine qui ne sont pas forcément connues du grand public. Notamment, par exemple, la lutte sur le plan de la physiologie entre les tenants du mécanisme et les tenants de la chimie, vous voyez, des choses comme ça.
Jean-François Hutin, on va avoir des progrès considérables entre la préhistoire et dans le futur, c'est plus tout à fait la même médecine.
Ah ben non, pas du tout. Mais ce qui est amusant, c'est que finalement, l'histoire de la médecine, d'ailleurs certains historiens considèrent que l'histoire de la médecine telle qu'on la pratique aujourd'hui ne commence qu'au 19e siècle, voire au milieu du 19e siècle, avec les progrès de la bactériologie et l'invention de l'anesthésie et toutes ces choses-là. Et que c'est d'ailleurs ce que je montre un peu dans la pièce avec Hippocrate, qui a un petit peu, avec sa théorie des humeurs, qui a un peu finalement embourbé la médecine pour quelques millénaires.
Mais comme le dit Madame Agnès Janssen, il faut des acteurs. Vous les avez dénichés dans un corps de métier particulier,
ils sont tous du milieu médical. Au départ, nous avions mis des annonces un petit peu partout, à la fac de médecine, dans mon cabinet, dans des laboratoires. On en parlait un peu autour de nous, et donc comme ça, on a recruté le médecin traitant d'un des membres de l'association, une patiente de mon cabinet, mon associé, et qui sont tous donc du milieu médical.
Mais alors, ces personnes du milieu médical se sont révélées d'extraordinaires acteurs.
Ils se sont pris extraordinaire, au jeu. Ça, on verra.
Ils se sont impliqués, ils ont appris les textes.
Ils sont beaucoup impliqués, oui, ils sont beaucoup impliqués. On a réparti, en fait, les rôles entre les différents acteurs que nous avions. Au début, on était un peu inquiets parce qu'on avait du mal à trouver quand même. Hein. Et notamment, il y avait un rôle, le rôle de la mort, qui est quand même un rôle assez important, et avec beaucoup de textes. Et on était un petit peu inquiets parce qu'on trouvait personne. Puis finalement, on a trouvé notre mort.
Alors évidemment, ce spectacle est à vivre et à suivre au Théâtre du Chemin Vert. C'est à 19h30, c'est jeudi 14 mars et vendredi 15 mars. Comment fait-on pour réserver? Il y a un site internet, Agnès Janssen, on se connecte.
Tout à fait, il faut aller sur la billetterie de notre association, hein, donc www.aufildelhistoireprod.fr. Et puis vous tombez sur Hello SO, enfin,
oui,
et puis on peut en ligne. Si jamais les gens ont peur de passer par Hello SO alors qu'il n'y a aucune difficulté, vous pouvez éventuellement envoyer un chèque à la MVA au nom de Au fil de l'histoire production.
Le message est bien passé. Merci beaucoup Agnès Janssen, Jean-François Hutin de nous avoir présenté cette place. Quoi de neuf docteur? Le rendez-vous c'est au Théâtre du Chemin Vert à Reims le 14 et 15 mars prochain. Voilà pour le magazine régional ce soir. On se retrouve demain, mardi, avec de nouvelles rencontres en région, un petit peu partout à travers la Champagne-Ardenne, de nouvelles actualités. Aussi, ça bouge beaucoup, même pendant les vacances scolaires. Pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, on On vous souhaite de bonnes vacances et on vous remercie pour votre fidélité. Pour ceux qui sont au travail, on vous souhaite bien sûr bon courage. Tout de suite, c'est l'information nationale. Les programmes locaux sur RCF France-Ardennes, RCF Cœur de Champagne, c'est de retour à 19h12. Et l'actualité rédactionnelle, c'est à partir de 7h du matin sur RCF en région. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.